Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 23 octobre 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Oui, je suis de retour des États-Unis.
Oui, et hein? Ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. Écoute, on va parler en deuxième bloc de ce que je t'allais faire là-bas, mais avant de commencer, nouvelle peut-être... un peu décevante concernant la Civic SI, on peut se dire ça comme ça?
Oui, bien la bonne nouvelle, c'est qu'elle revient, elle est de retour là, pour la berline, mais ce qui est un peu décevant, c'est sa puissance. Parce que, bon, sans grande surprise, on a le moteur turbo-compressé 4 cylindres de 1,5 litres, mais la puissance est en recul par rapport à la génération précédente. Donc, c'est rien de très impressionnant. On passe de 205 à 200 chevaux. Et donc, on prend un certain pas de recul par rapport à la compétition. Et je ne sais pas si les acheteurs vont continuer d'être au rendez-vous pour cette voiture-là. Bon, oui, c'est la berline. On le sait, on n'a plus de coupé, on n'a plus rien de ça. Donc, pour ça, c'est un peu décevant.
Je vais être plus sévère que toi. D'abord, si tu veux redonner les lettres de noblesse à la version SI, il faut que tu arrives avec une voiture peut-être plus esthétiquement dynamique. Là, on a à peine modifié l'esthétique de la berline seulement. Pourquoi ne pas offrir une version hatchback de la SI? C'est quoi ça?
À l'intérieur, on l'a bien aménagé, okay, je trouve.
Correct. Il y a du rouge partout. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi il n'y a pas de version hatchback de la SI? C'est ça qui connaîtrait beaucoup de succès, je pense. L'autre affaire, c'est qu'on a uniquement une boîte manuelle. Puis je veux dire, toi et moi, on s'en plaint pas, mais pour vendre des unités...
C'est très audacieux, mais en même temps, si c'est ça, si on veut en faire un succès commercial, on veut bien plaire aux amateurs de conduite, mais en même temps, on aurait mis quoi sinon? Ben, la CVT?
Non, la boîte double embrayage qu'on retrouve dans l'ILX, qui est très performante, l'a au catalogue, elle cadre avec ça.
Mais on ne l'aurait pas fait.
Mais ça aurait été, on ne peut plus logique.
Si on avait mis une automatique, ça aurait été la CVT, je suis certain.
Ben, tu ne peux pas mettre une CVT dans une SI.
Ben, c'est ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... bref, alors, moi, je pense que c'est une demi-réussite. OK, on la ramène.
Mais en même temps, c'est pas la SI aussi vivante qu'elle a été.
Ben non. Fait que ça, c'est un peu décevant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle camionnette Sierra. Oui. Là, beaucoup de nouveautés de ce côté-là.
Oui, des grandes nouveautés. Hein. On avait vu il y a quelques semaines, le nouveau Silverado, on nous était débarqué avec le ZR2, et là, ben, le Sierra a droit à deux nouvelles versions, donc Denali Ultimate, donc parce que c'était pas assez, visiblement, c'était pas assez ostentatoire et assez équipé.
L'année prochaine, ça va être le Denali Ultimate Plus.
Et l'autre année, ça, plus.
Plus extra.
Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'équipe de série du Super Cruise. Donc, on essaie là, de mettre cette technologie-là un peu partout hein, dans notre gamme de produits chez GM.
Ouais.
Et on continue évidemment d'offrir le Denali régulier. On va offrir le Super Cruise en option pour cette version-là. Deuxième nouvelle version, c'est l'AT4X. Donc,
AT4X.
Oui, donc on mise vraiment sur ces espèces de sous-marques-là qui sont relativement populaires, on n'a pas le choix de l'admettre. Et grosso modo, c'est une version un petit peu plus... Et là, je dis un petit peu plus radical par rapport au AT4 régulier. Donc, on a des...
Ça va brasser son homme, ça.
Oui.
Parce que l'AT4, c'est pas la version la plus confortable en partant, là.
Non, puis on a des amortisseurs particuliers, les suspensions multimatiques, des plaques de protection un peu partout. Donc, c'est les grandes nouveautés pour... pour 2022. On nous avait dit pour le Silverado qu'on avait optimisé le moteur turbo à 4 cylindres. Ben évidemment, c'est la même chose dans le cas du Sierra. Et on nous a confirmé que le 6 cylindres en ligne Duramax turbo diesel allait continuer d'être offert. Donc encore faut-il qu'on puisse l'offrir là. Et j'ai trouvé qu'en termes d'échéancier, on était assez optimiste parce qu'on nous parlait d'une arrivée en concession pour le début de l'année 2022, donc d'ici le printemps 2022. On sait qu'on n'est pas capable en ce moment de livrer les unités actuelles. Comment va-t-on faire pour livrer des camionnettes 2022 qui vont avoir encore plus de puces électroniques parce que, justement, toute l'instrumentation est numérique, on a plus d'écrans que jamais, plus de technologie que jamais, et ça, ça implique ces microprocesseurs-là. Donc, je les trouve très optimistes.
Puis il faut savoir qu'il y aura en fait, on produira des modèles 2022 d'ancienne génération.
Ouais.
Il y aura des 2022 et des 2022 et demi.
Là, ça, on ne nous l'a pas dit là, pendant la présentation. Mais la réalité, ça va probablement être ça, effectivement. Là, bon, évidemment, on avait le levier à la colonne là, par le passé.
Qui disparaît.
Là, ça disparaît. Il était relocalisé.
Est-ce que ça disparaît même dans les versions de base? Parce que là, c'est ça la question.
Oui, on nous présente des versions à 100 000. Là,
c'est ça.
Mais ce sera à voir là, au fil du temps.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Pour la portion des essais de la semaine, c'est une thématique étoilée, une thématique Mercedes. De mon côté, j'ai conduit le Mercedes AMG GLB 35, donc la version un peu plus performante là, du petit GLB. Et si vous le remplacez pas, ben c'est le choix intermédiaire entre le GLA, qui est vraiment tout petit, et le GLC. Donc je sais pas si on veut compléter l'alphabet, mais en tout cas on est bien parti. C'est un petit peu plus carré hein, que le GLA, et si bien que il y a des versions avec une troisième rangée à l'arrière.
C'est
complètement ridicule. C'était pas le cas de la version que j'ai mise à l'essai, mais j'ai pris place à la deuxième rangée. J'ai regardé l'espace qu'il y avait dans le coffre et d'aucune manière réaliste, je pouvais imaginer qu'on allait placer là une troisième rangée.
C'est bon pour des chihuahuas de nains.
Oui, c'est ça. Et à peu près, là, c'est tout. Évidemment, là, c'est une version AMG. L'accélération est au rendez-vous, considérant...
On a mis des haut-parleurs pour le son.
Oui, probablement, ouais. Probablement. Mais ça m'a paru assez nerveux comme véhicule. Évidemment, le délai au décollage est là. Mais une fois qu'on est parti, finalement, la transmission à double embrayage est un petit peu plus efficace, mais pour partir du stop, c'est pas nécessairement l'idéal. Bon, qui dit version AMG dit roulement très ferme, donc le confort, ben on le retrouve pas malheureusement. Et sinon, comme pour les autres produits de la marque, le système MBUX, là, donc le système d'infodivertissement. Moi, je trouve que c'est très bien pensé, c'est très bien présenté, très facile à utiliser. Je pense que tu n'es pas nécessairement d'accord, mais l'assistant est Mercedes, là. Quand on l'utilise en français, même si on essaie d'avoir un français le plus international qui soit, c'est pas nécessairement aussi facile de se faire comprendre qu'en anglais, mais sinon, voilà. Donc, à qui ça s'adresse? GLB 35 AMG, une excellente question.
N'importe qui veut l'acheter chez Mercedes, on se pose même plus ces questions-là.
Non.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre deux modèles déjà nichés, un autre modèle encore plus niché? Fait que, tu sais, c'est...
Et c'est paradoxal, je reviens là-dessus, paradoxal d'y mettre une troisième rangée parce que le GLC, on n'a pas là, de troisième rangée. Là. Donc, pourquoi offrir un véhicule plus petit qu'il y en aurait? Bref...
Mais on le fait différent de la compétition.
Oui.
Parce que t'as pas d'équivalent talent chez Audi et chez BMW. Et ça, c'est la carte de Mercedes.
Chez BMW, on a décliné le X1 en X2. Chez Mercedes, on a décliné le GLA en GLB. Mais c'est une approche totalement différente. Exactement. Donc oui, bravo pour avoir essayé, mais
Mais le look est réussi, puis on vend beaucoup plus de GLB que de GLA depuis l'arrivée du GLB.
C'est un véhicule qui est quand même beaucoup plus pratique. Là.
C'est ça, exactement. GLA, c'est une voiture,
on se le cachera pas. On se le cachera
comme
pas.
La X2 de BMW qu'on vend très peu. Il y a ça aussi.
De ton côté, oui, c'est ça. Un véhicule complètement à l'opposé de la gamme, au sommet de la gamme chez Mercedes.
Et peut-être pour la dernière fois, du moins avec cette mécanique, parce que, j'ai pu mettre la main sur le Mercedes AMG G63. Le gargantuesque congélateur sur roue avec 577 chevaux de puissance.
Le véhicule le moins aérodynamique du marché, à peu près?
0,55 de CX.
J'aime ça que tu connaisses par cœur le coefficient aérodynamique.
Ouais. Ben, c'est pas compliqué. Prends celui d'un congélateur, puis c'est la même chose.
C'est à peu près ça.
Écoute...
Mais dans la fiche technique d'un congélateur, il n'y a pas de coefficient d'aérodynamisme.
Exactement. Mais écoute... Bon, c'est un camion qui coûtait 247 000 $ qui se revend au lendemain tout près de 300 000 $ Oui. Il y a une surenchère incroyable pour ces camions-là.
Et il faut s'attendre à payer 300 000 $ Les concessionnaires ont des manières peut-être un peu créatives là, de faire grimper la facture, même si c'est pas permis.
Ouais.
Donc, grosso modo, oui, ça coûte 300 000 $
C'est puissant, c'est démesuré, c'est beau, c'est magnifique comme look. Moi, j'adore ça. Mais à conduire, écoute, je me tanne. T'sais, c'est-à-dire qu'une fois que tu es au volant, c'est super sympathique d'avoir les deux gros clignotants sur les ailes en avant, de conduire ce camion-là qui te donne l'impression d'être un camion commercial, mais ultra luxueux.
D'ouvrir et de fermer les portes aussi,
c'est
une expérience.
Ça te donne l'impression d'un camion blindé. Là, t'sais, c'est vraiment ça. C'est lourd, ça n'a aucun sens. Mais tu te rends rapidement compte que bon, la maniabilité puis l'espace intérieur, c'est vraiment pas impressionnant. Et j'ai pu conduire un G6 550, qui n'était pas la version AMG, avec un moteur V8. La sonorité est pas aussi poussée, mais presque. Puis toute la surpuissance qu'on retrouve dans le AMG, ben écoute, à moins de faire une accélération en ligne droite... Là,
elle est inutilisable.
Non, parce que en virage, il n'y a rien à faire avec un camion comme ça. Là. Je veux dire, c'est mieux que l'ancienne génération qui datait de 79. On a renouvelé celui-là en 2018. Puis là, bon, tu comprends que c'est un camion plus moderne, mais l'essence du véhicule demeure la même.
L'essence que tu mets souvent
oui,
aussi,
ça,
j'imagine.
T'en mets beaucoup, ah, oui. Exactement. Puis j'essayais de m'imaginer la version à moteur 4 cylindres 2 litres turbo qu'on vend en Europe.
Qu'on n'a pas ici, là,
qu'on
évidemment.
Qu'on n'a pas ici. Ça doit être particulier, ça, le 4 cylindres d'une GLA, justement, là-dedans.
T'sais. Ça doit être très lent. Alors.
Oui, ça doit être quelque chose. Mais bref, tu es content de le conduire parce que le V8 AMG, tel qu'on le connaît, il y en est peut-être à sa dernière année dans cette forme-là. Mercedes a annoncé qu'on coupait ce genre de mécanique-là progressivement. C'est un moteur fait main, il faut le savoir. On coupait ce genre de mécanique-là pour arriver avec la future... des 4 cylindres, des 6 cylindres, turbo-compressés avec hybridation. On ne sait pas trop encore ce qu'on aura, mais les moteurs V8, ça sent la fin chez Mercedes et AMG. Ouais.
Et tu disais que le G-Wagon avait une allure de congélateur. Et si jamais on devait arriver avec une version 100% électrique, est-ce qu'on l'appellerait le GE? Donc, comme pour General Electric, c'est une bonne question.
Elle est excellente.
Je la préparais depuis longtemps.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, cette semaine, on reçoit un invité de marque. C'est pas n'importe qui, là.
Non, c'est pas n'importe qui et on le reçoit même en studio.
Oui, en studio, puisqu'il était du côté des États-Unis jusqu'à hier, en fait.
Oui, et là, tu vas arrêter de parler de toi à la troisième personne, s'il te plaît. Donc, t'en as profité cette semaine pour aller à Détroit dans le cadre du jury, dans ton rôle de jury sur l'organisme du North American Truck and Utility Vehicle of the Year, donc le NACTOR.
NCAR aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des autos à travers
un peu. Un peu, de moins en moins, mais ouais. un peu quand même. Et ben, grosso modo, ce sont les constructeurs qui mettent à la disposition d'un groupe sélect de journalistes les plus récentes nouveautés.
Ben, c'est-à-dire, oui et non, parce que ça fonctionne d'une façon bien différente de l'AJAC.
Oui.
À l'AJAC, ben, ce sont les constructeurs qui vont soumettre leur véhicule, alors que au NACTOY, North American Car of the Year, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va recevoir, nous, nous sommes 50 jurés, là. On est 7 Canadiens et 43 Américains. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a, bon, évidemment, la liste de toutes les nouveautés de l'année. Et nous, individuellement, nous allons voter pour un nombre X de voitures, de VUS et de camionnettes qu'on considère importantes.
Donc, il y a une présélection qui est faite.
Il y a une présélection qui est faite. Donc, on a exclu, par exemple, cette année, le Mazda MX-30 qui aurait pu se retrouver là, on l'a tassé. La Rolls-Royce Ghost.
D'emblée, on jugeait que ces véhicules-là n'avaient pas réellement de chance de devenir la voiture de l'année ou le camion de l'année.
Alors, on a un nombre X de voitures, de VUS et de camionnettes qu'on doit considérer. Bon, évidemment, la catégorie des camionnettes, il n'y a jamais assez de véhicules pour qu'on n'accepte pas tout le monde. Et cette année, c'était presque une année record parce qu'il y avait 6 camionnettes en lice. Mais dans les voitures, on a
mis qu'il y a un nouveau segment, en fait, de camionnettes.
Oui, en plus, c'est ça.
Qui débarque.
Ben, deux, je te dirais même.
Et si on fait le parallèle, peut-être, avec le Test Fest de la JAC, qui est quelque chose de similaire, mais organisé au Canada. On va regrouper des véhicules de presse, des flottes réparties au pays, et ça se résume à ça. Donc, le véhicule que tu mets à l'essai au Test Fest, ben, tu peux l'avoir conduit un mois auparavant dans ta propre ville, alors qu'en participant au NACTOY, comme tu l'as fait, ça donne une certaine exclusivité ou un accès relativement privilégié, surtout pour les Canadiens.
Oui, surtout pour surtout cette année, puisqu'on n'a pas voyagé beaucoup, donc on n'a pas pu voir tous les véhicules. Écoute, je vais te faire la liste de tous les véhicules qui étaient en nomination cette année-là. Donc, chez les voitures, on a l'Audi A3, S3 également, la Cadillac CT5V Blackwing, qui est une voiture de niche, évidemment, mais qui est assez impressionnante, Genesis G70, la Honda Civic, évidemment, et on avait la nouvelle version hatchback. La Lucid Air, malheureusement, la voiture n'a pas pu être présente pour une question de transport. On l'a manqué par quelques jours, alors c'était bien dommage, mais elle est éligible.
Est-ce qu'on peut deviner qu'elle ne sera pas gagnante justement parce que les journalistes ne l'auront pas conduite?
Ben, je te dirais qu'au moins la moitié des chroniqueurs américains l'auront conduite. Déjà. Même chose pour la Mercedes EQS qui aurait pu se retrouver là, mais parce qu'il y avait un événement du côté de la Californie en même temps, on n'avait pas assez d'unités, on n'a pas pu avoir la voiture. Classe 16 de Mercedes, qui est une voiture bien impressionnante, mais toi et moi, je serais bien surpris que ça gagne. Et finalement, la Golf GTI et la Golf R de nouvelle génération. Ça, c'était pour les voitures. Chez les camionnettes, en fait, chez les VUS, là, il y a du monde. Ford Bronco, Genesis GV 70, Hyundai Ioniq 5, oui, c'est chez les VUS. Moi, j'ai bien de la misère avec
ça. C'est très étrange parce que sa jumelle, qui est la Kia EV6, c'est une voiture.
Oui, mais les Américains ont tenté de nous vendre la Chevrolet Bolt comme un VUS.
Ah,
ça n'a pas passé, fait qu'ils ont sorti un EUV. T'sais, tu comprends-tu?
C'est limite, là.
Une voiture à haillons aux États-Unis, là, ils veulent pas ça. À moins que ce soit une Golf R, tu comprends-tu?
Oui, oui, oui.
Si tu mets un haillon sur un véhicule, ça vend pas. D'ailleurs, la Civic, là-bas, hatchback, il y a même des gens qui se posaient la question, mais pourquoi?
Pourquoi elle est là?
C'est
oui.
ça, tu sais. Alors, c'est un marché qui est complètement différent. C'est bien intéressant de voir ça. Tu sais, j'essayais d'expliquer aux gens, moi, aux États-Unis, à mes confrères américains, qu'au Canada, ils se vendaient une Golf pour une Jetta, alors qu'aux États-Unis, ils se vendent 10 Jetta pour une Golf. Il n'y a personne qui achetait ça, une Golf, aux États-Unis. Alors, tu sais, c'est un marché complètement différent. Alors, je continue. Hyundai Tucson, évidemment, dans toutes ses déclinaisons, essence, hybride ou hybride rechargeable. Le Grand Cherokee, le Wagoneer et le Grand Wagoneer. La Kia Carnival, qui est une fourgonnette, mais qui s'est retrouvée dans le segment, évidemment, par défaut.
Parce que c'est pas une voiture ni un camion. Là.
Et parce qu'Hyundai aussi, tente de nous faire croire que c'est un VUS, mais ça, c'est une autre histoire.
Ils pourront tenter aussi fort qu'ils veulent. Là.
C'est ça. Nissan Pathfinder, bien sûr, le Volkswagen ID4, dans sa version à 4 roues motrices, elle était sur place. Et chez les camionnettes, là, c'est très, très disparate. Alors, on commence commence avec la Ford Maverick. GMC Hummer EV. Donc, tu ouais. vois qu'il y a un gros clash. Le Santa Cruz de Hyundai, Nissan Frontier, le Rivian R1T et finalement le Tundra. Et là, évidemment, j'entends tout le monde dire « Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas comparer un Hummer avec un Maverick. » Et je suis 100% d'accord. Et l'idée, ce n'est pas justement de comparer...
De dire que l'un est un meilleur achat que l'autre. Non, c'est simplement de présenter la plus grande nouveauté.
Quel est le véhicule de l'année...
Qui se démarque le plus.
Qui est le plus significatif, qui aura le plus d'impact à la fois sur la clientèle, mais aussi sur le futur, sur la technologie, sur le genre. Parce que, je te donne un exemple, entre une Ford Maverick qu'on va vendre aux États-Unis, ça part à 20 000 $ américains.
Hein. On va en vendre, là. Bon, ça va être littéralement les petits pains chauds. Là.
C'est ça. C'est... Alors, entre un Ford Maverick, qui est un véhicule très pragmatique, mais également innovateur de par son format, de par sa vocation, et un Hummer qui a 1000 chevaux, qui doit peser 8000 livres, qui est capable de passer par-dessus un bloc appartement.
Mais en même temps, avec un prix aussi qui fait qu'il s'adresse juste à une poignée d'acheteurs.
Bon,
là,
ben,
même
regarde, s'il va la être version qu'on avait là-bas était 112 900 $ américains. Ben, entre ces deux véhicules-là, tu peux te poser la question, lequel est le plus significatif pour ouais. son marché? Et c'est intéressant comme questionnement, parce que la majorité des gens vont dire, ben oui, mais qui est capable de se payer ça, un Hummer de 112 000, 1% de la population, on est tous d'accord avec ça. Mais il en demeure pas moins que tout ce que ce véhicule-là propose comme technologie, comme avant-gardisme, fait en sorte que, bon, c'est un véhicule ostentatoire, démesuré, capable de tout faire, mais en même temps, il y a tellement de technologies nouvelles là-dessus qui va se retrouver sur des Sierra, des Silverado prochainement, que...
Et là, on va aller chercher un plus grand volume.
Ben, tu sais, c'est ça. Alors,
donc, on ouvre la porte à une nouvelle génération de camionnettes.
Puis en même temps, c'est vraiment une première camionnette 100% électrique qui arrive. Tu sais, on nous bat les oreilles depuis 3 ans avec le dernier Cybertruck. On ne l'a pas vu encore.
On a vu une vidéo très pixelisée, là, d'ailleurs, cette semaine d'essai dans un stationnement, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe toujours pas. On va attendre très longtemps avant d'en voir.
Premièrement, puis deuxièmement, ben, t'as Ford aussi. Le Lightning, c'est le grand absent. Et il est absent parce qu'il ne sera pas commercialisé à temps. Donc, il sera probablement présent l'année prochaine. Mais tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a de la camionnette électrique aussi. Alors, t'évalues des trucs comme ça. Puis à travers ça, t'as un Nissan Frontier qui est totalement pragmatique, qui a une technologie super conservatrice, mais qui, en même temps, débarque au bon moment... au bon prix, avec une bonne formule, ça va se
donc,
vendre aux États-Unis.
Donc, c'est très significatif, mais pas révolutionnaire. Alors,
c'est ça. Alors,
c'est très personnel comme choix rendu.
Alors,
là.
Moi, je vais avoir une grille à remplir de 25 points en disant j'accorde combien de points à quel véhicule pour son impact sur le marché. Puis, tu sais, je me permets rapidement de te dire que dans le secteur des camionnettes, il y avait beaucoup de joueurs très disparates, très intéressants, incluant le Santa Cruz de Hyundai. Bon, Tundra, évidemment, c'est un joueur d'importance dans le marché. On amène une motorisation hybride. Par contre, du peu que j'ai pu l'essayer sur place là-bas, j'ai été amèrement déçu de la qualité de finition de ce véhicule-là. Dans sa version TRD Pro, ça faisait très Fisher-Price. Puis on a l'impression qu'il essaye trop, là. La grille de calandre est plus grosse qu'une Honda Civic. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, arrêtez, là.
Oui,
ça n'a aucun bon sens, là. Puis
ça dépasse de partout, là.
Ça me donne l'impression de la grenouille qui voulait devenir plus gros que le bœuf. C'est-à-dire, tu sais... On veut faire croire qu'on est américain. T'sais, on fait une édition 1794 pour commémorer une date historique au Texas. Pis, on construit le camion au Texas. Pis c'est tout juste si on ne te donne pas un chapeau de cow-boy avec le pick-up. Arrêtez, là. Ça s'appelle Toyota.
Oui.
On s'entend.
Oh, oui.
Alors, tu sais, faut relativiser. Puis je trouve qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin. Mais... je m'avance peut-être un peu trop vite. J'aurai la chance de le réessayer dans les prochaines semaines, ce camion-là.
Ta première impression de la mécanique qu'on n'a jamais vue avant, qu'est-ce que tu en as dit de ça?
Bien, en fait, la motorisation hybride, évidemment, on n'a pas remorqué, on n'a pas poussé, on n'a rien fait, là. Mais c'est sûr que la motorisation hybride combinée avec le V6, c'est une bonne formule. Et du peu que j'ai pu conduire avec ça, bien, écoute, compte tenu de la puissance, j'étais à peu près à 10 litres au 100, je trouvais ça raisonnable. T'sais. Mais c'est l'emballage.
C'est à peu près ce qu'on fait avec le F-150 Power Boost.
Oui, quand il marche, là.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi la langue sale, mais parce que le Power Boost, on a
pas des problèmes. Je t'ai pas repris, hein?
Non, c'est ça. Mais bref, alors c'est ça. T'sais, fait que faut évaluer tout ça. Puis évidemment, bon, dans toutes ces catégories-là, on avait plusieurs véhicules qui, pour moi, représentaient des vraies nouveautés, des vraies surprises, parce que du côté canadien, on n'a pas nécessairement accès depuis un an et demi au même véhicule que nos collègues américains. Et comme j'étais le seul Canadien qui avait osé franchir la frontière et prendre l'avion avec Delta Airlines pour me rendre de l'autre côté.
Et tout ce que ça implique, là.
Oui, mais Delta, étonnamment, je passe ça comme message, service franchement impeccable.
OK.
Pour vrai, là, j'ai vraiment trouvé qu'on avait un service qui avait bien du bon sens. T'sais, on tape souvent ces lignes américaines, mais quand ils font du bon boulot, il faut le dire aussi.
Très bien. Bon, très alors, bien. Revenons à nos moutons. Bon, en rafale, là, une des voitures qu'on attend, c'est la GTI, la Golf R. Tu as pu les conduire. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on continue de retrouver l'ADN Volkswagen? Est-ce que c'est toujours aussi plaisant à conduire que ça l'était?
Ben écoute, absolument. Pour l'agrément de conduite, tu sais, puis je veux dire...
C'était pas très convaincant, là. On va le refaire, ça.
Non, mais c'est-à-dire que la GTI, je me suis assis à bord. D'abord, j'ai essayé une GTI manuelle puis une Golf R avec boîte DSG. Je te confirme que je préférerais une Golf R avec une boîte manuelle, même si la boîte DSG fait un boulot exceptionnel. Okay?
Mais ça, c'était vrai avant aussi.
Alors, la GTI que j'avais, c'était une GTI de base. Donc, pas de toit ouvrant, céleri de tissu, comme on les aime. Tu sais, pas trop de fioritures. Le truc que j'aime pas de la nouvelle génération de la Golf, veux-tu que je vais te le dire, c'est que t'as plus de planche de bord, c'est juste des écrans. Comme dans le ID4.
Et ça devient ça pour bien des véhicules, là, ça, l'instrumentation là, numérique.
Oui, mais je veux dire, tu me parles d'une petite sportive avec un cachet unique. Donne-moi de la viande. Là. Lâche-moi les écrans à un moment donné. C'est ça, c'est le truc qui m'a déçu. Puis en plus, c'est très noir, c'est très sombre, c'est très luisant, tous ces écrans-là, et ça se salit très facilement, si bien que comme j'étais peut-être le 9 ou 10e à prendre le volant de ce véhicule-là et qu'aux États-Unis, on désinfecte un peu moins que chez nous, bien, pas besoin de te dire que quand j'ai pris place
t'as
à bord...
T'as pu récolter les empreintes de tous tes collègues américains.
C'est ça. Fait que ça, c'est le point qui m'a vraiment déçu. Maintenant, position de conduite, aménagement, technologie, on l'a. L'espace intérieur s'est amélioré. L'ergonomie générale, ça va. Bon, l'autre truc qui m'a agacé, il n'y a plus de bouton physique du tout. Tu veux monter le volume, c'est comme dans l'ancienne génération de la Civic. Là, tu tapes sur l'écran jusqu'à temps que ça fasse ton affaire.
Et est-ce qu'on perçoit le même délai que dans le Volkswagen ID4, par exemple?
Écoute, honnêtement, je peux pas répondre à cette question-là. Ça m'a pas agacé. Okay. Mais tu sais, je suis pas allé dans cette analyse-là. Il faut comprendre qu'on a peut-être 45 minutes
oui,
avec
ça,
chaque véhicule.
C'est assez bref là, comme essai. Tu passes pas une semaine avec chacun.
C'est
là.
Ça. Mais tu sais, bon système audio, les modes de conduite, ça change la dynamique complètement. Et ce que j'ai aimé, c'est vrai autant pour la GTI que la Golf R, et c'est un point qui est peut-être encore plus intéressant sur la Golf R, c'est que quand tu joues avec les modes de conduite, la dynamique de la voiture change au point où tu passes d'une véritable sportive à une voiture très confortable pour faire de la grande route. Et c'est ce qu'on a reproché souvent des hot hatch, c'est-à-dire des petites voitures sport, d'être trop radicales.
De ne pas avoir de compromis, oui.
C'est
voilà.
Ça. La Golf R, ça n'a jamais été son gros point faible parce que c'est une voiture qui était quand même plus confortable, par exemple, qu'une Focus RS, qu'une WRX STI, bon, des trucs comme ça. Mais tu as plus de puissance, tu as 315 chevaux. Puis ce qui est le parallèle que je fais avec la Golf R, bon, la GTI, j'ai bien aimé. L'effet de coupe, c'est pas trop mauvais. Mais quand tu conduis la GTI, d'abord, tu te dis, c'est-tu dommage qu'on n'ait pas amené une Golf? J'aurais aimé une version...
Avoir la version ordinaire de cette voiture-là.
La version ordinaire, tu sais, la vérité, c'est qu'on n'aurait pas pu la vendre bien moins cher. Tu sais, fait que je comprends ce que Volkswagen a essayé de faire. Puis, selon moi, peut-être que je me trompe, mais on la vend tellement pas cher, la GTI, parce qu'à 32 000 je trouve que c'est une bonne aubaine.
Que des acheteurs de Golf régulières vont se tourner carrément vers ça, même si c'est plus sportif.
Bien, en fait, moi, je me... c'est parce que Volkswagen nous répond, on n'aurait pas été capable d'amener une Golf puis de l'offrir en bas de 30 000 $. Parfait. Offrez-nous une Golf à 30 000 $. Parce que moi, je pense que ça continuerait de se vendre, pas au niveau d'avant, là.
Non, c'est sûr, parce qu'on le voit. On... Moi, je reviens toujours avec cet exemple-là de la Mazda 3, tu sais, qui a monté en gamme, puis on vend pas du gros volume, là.
Oui, mais la Golf a sa propre clientèle.
Oui.
Mazda n'a pas de rétention de clientèle comme Volkswagen. Alors, tu m'offres une version de la Golf équipé adéquatement. Tu sais, c'est fini les versions de base à 22 000. Ça, on le sait.
Oui, une CL mais, avec des câbles de roue, non, là, c'est fini.
Mais tu m'offres une Golf qui a du bon sens avec une plus petite mécanique à 29 990. Puis la GTI, t'as la grimpe à 34 900. Puis moi, j'aurais pas de problème avec ça. Cette voiture vaut le montant.
OK.
Après ça, tu passes à la Golf R, c'est complètement autre chose. Puis moi, j'ai le feeling qu'on va peut-être même faire une version GTI de la Golf R éventuellement.
Donc, une version un peu...
Parce que...
Un peu plus simple?
Bien, c'est-à-dire avec le look de la GTI aussi. Parce que esthétiquement, c'est très différent. Bon, les sièges carottés à l'intérieur, toute la partie avant, la petite ligne rouge sur la calandre, tout ça.
Alors que, ironiquement, c'est plus sobre avec la R, là.
Bien oui, de moins en moins, parce que c'est une voiture qui est quand même assez tape à l'œil, son becquet en arrière, les grosses roues. La partie avant, c'est assez massif.
C'est vrai que les roues sont grosses.
Mais la Golf R, écoute, c'est une sacrée machine, là.
Pis, j'ai pas de misère à te croire.
Ça, c'est vraiment une auto. J'adore la Golf R. Vraiment, j'aimais l'ancienne génération. Ça commençait à vieillir un peu. Puis tu sais, ce qui est drôle de la Golf R, ce que j'aime moins de la Golf R, c'est souvent la clientèle un peu faunée qui va venir avec. C'est-à-dire les gens qui achètent ça parce que c'est trop cool de rouler une Golf R, mais ils savent pas ce qu'ils ont des mains. Là.
Pour le paraître.
C'est ça.
Alors que les GTI, c'est souvent des puristes, des réels amateurs de conduite.
Mais la Golf R, c'est une sacrée machine. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi pu conduire la S3.
Qui est
la même chose chez Audi.
Là, oui, on a la même architecture, la même mécanique.
Je préfère la Golf R.
Ah oui.
Plus d'espace, mieux installé à bord. Je me sens moins à l'étroit. Est-ce que la S3 est un petit peu plus rasoir? Peut-être. Mais on c'est vraiment petit, la S3. Alors que dans la Golf, t'as cette impression d'espace, de dégagement, de luminosité que t'as pas chez Audi. Puis la présentation Audi à l'intérieur, il y a beaucoup de rappels par rapport à Volkswagen. La finition est plus belle, clairement. Parce que c'est pas la super qualité de la Golf, la finition. Tu sais, il y a des petits trucs que j'ai fait. Ah, tu vois, ça, il aurait pu se forcer un peu plus. On n'est pas dans une Jetta, mais... C'est pas exceptionnel. Alors que dans la S3, ben là, évidemment, oui, la finition...
On retrouve le niveau d'Audi, là.
Mais je te dis, tu me donnes le choix entre les deux véhicules, puis on parle pas de prix. Celle que je préfère conduire, celle dans laquelle je me sens le mieux, c'est la Golf R.
OK, c'est intéressant,
ça. Très, très belle voiture. Honnêtement, j'ai bien aimé ça.
Très intéressant. La camionnette Rivian, tu as pu la conduire. On l'avait vue, à différents moments, mais elle se retrouvait d'ailleurs sur la page couverture du guide de l'auto. Ouais. Là, tu as pu le conduire enfin.
Bon, alors, Rivian, c'est une compagnie floridienne, mais qui est maintenant basée en Californie. C'est pas compliqué, là. Voyez Rivian comme l'équivalent aventurier de Tesla. Ce qu'on veut chez Rivian, c'est établir un réseau de bornes de recharge qui sera propre à la marque, mais qu'on va installer, oui, dans des milieux urbains, mais aussi à flanc de montagne, dans des parcs où les gens vont aller faire du sentier, faire du ski, des trucs comme ça. Tu sais, on a vraiment cette philosophie plus aventurière.
On va avoir notre carte d'accès de Parc Canada et juste à côté la carte d'accès de la borne Rivian.
Voilà. Puis, tu veux dire, il n'y aura pas de concessionnaire. C'est comme Tesla, il va y avoir des boutiques annexées à la maison mère. Là. Tu comprends? C'est le constructeur direct qui vend le véhicule.
Qui dit en route, dit souvent bris de suspension, de direction, de tout ça. C'est pas une voiture qui roule sur le pavé tout le temps. Là.
Ben, je me suis même pas rendu là. C'est sûr que le dégagement, écoute, on peut jouer entre 9 et 15 pouces de dégagement au sol, tellement il y a un jeu de suspension exceptionnel là-dessus. Les modes 4x4, les modes de conduite, la puissance, c'est phénoménal. C'est un peu plus de 800 chevaux. Ça pèse un peu plus de 7000 livres.
Puis en termes de format, c'est comme un F-150 carrément?
Oh, non.
Ou c'est plus gros
c'est
encore?
C'est Tacoma, là.
OK, c'est plus petit.
C'est plus petit. On est vraiment peut-être un petit peu plus gros qu'un Tacoma, mais la caisse arrière est tout petite. Hein? Alors, la caisse arrière, c'est 4,5 pieds. Alors, c'est 4 pieds et demi, en fait. Alors, c'est pas une caisse qui est super spacieuse. Par contre, tu as des espaces de rangement à des endroits que tu peux pas t'imaginer. Il y a un tunnel de rangement sous la caisse, devant l'essieu arrière, qui est super bien pensé. Même chose à l'intérieur. Je veux dire, il y a beaucoup d'astuces intéressantes. Tu prends place à bord du véhicule, toutes les fonctionnalités que tu connais d'une Tesla, on les retrouve là. Alors, tu as juste tes miroirs avec les boutons sur le volant, comme Tesla. Tu as deux écrans. Je veux dire, c'est très fortement inspiré de Tesla comme véhicule. Et bon, évidemment, j'ai parlé aux gens de Rivian. Quand est-ce que ça s'en vient au Canada? Il y a déjà une unité qui roule à Vancouver en ce moment. D'ici quelques mois, on devrait voir les premières unités. Les véhicules que j'ai conduits, c'est le Launch Edition qu'on n'aura pas au Canada. Mais il y aura deux versions de lancer au Canada et les modèles seront identiques aux Américains. Donc, la version Explorer, qui sera le modèle d'entrée de gamme, et la version Adventure qui sera plus luxueuse, bon, avec toit panoramique, plus de gadgets à bord. Là, essentiellement, c'est de l'équipement.
Considérant que Rivian s'était rapproché de Ford et Lincoln il y a quelques mois, d'avoir une version Explorer, c'est assez ironique.
Oui, et puis peut-être qu'on va faire une version Ranger aussi.
Oui, c'est ça.
Mais bon, alors, tu sais, tu regardes le véhicule, tu prends place à bord, il y a un beau look en plus. C'est vraiment réussi comme formule. Tu prends la route, la puissance est phénoménale, la maniabilité, c'est exceptionnel. Mais j'ai été déçu d'un truc, c'est la qualité d'assemblage. C'est un véhicule de production, ça craquait, ça brassait. Ça me rappelle une Tesla.
OK. Vraiment, à tout point, on se rapproche du concept Tesla.
C'est ça. Alors, j'ai hâte de voir comment ces véhicules-là vont évoluer, comment ça va se passer chez nous au Canada. On semble très sérieux pour le marché canadien parce qu'on sait qu'il y a un engouement à ce niveau-là. Mais il y a aussi une question de prix. Là. Ça part à 67 500 américains, ce qui veut dire au moins 80-85 chez nous. Puis là, ben après ça...
Donc, ça va être 100 000, là.
Ben une version... C'est ça. Donc, il n'y a rien d'éligible aux crédits gouvernementaux. Et ça peut remorquer, tiens-toi bien, 11 000 livres. Mais là, à ce moment-là, ton autonomie va...
Oui, il va diminuer
un peu.
Parce que
je ne vous ai pas parlé de l'autonomie, mais c'est 500 km. C'est 300 000, en fait, d'autonomie qu'on propose. Alors, c'est quand même pas rien. C'est un produit très sérieux, mais j'espère qu'on va serrer les boulons à quelques endroits.
À l'opposé, ben, il y a le Ford Maverick que tu as pu conduire. On en a vu quelques unités arriver au pays. Bon, on a une version hybride, roues motrices avant, quatre roues motrices avec le 2 litres turbo, une consommation qui a été annoncée cette semaine à 5,5 litres pour la version 5,5 litres aux 100 km pour la version hybride. Bon, un prix qui est assez alléchant en plus. Est-ce que le produit est convaincant?
Bien, le prix est alléchant, mais quand tu vois la version de base, tu comprends que tu peux pas vendre ça bien plus cher. Il n'y a rien, là. On n'a pas voulu faire de ce véhicule-là un produit de luxe. Pas du tout, là. C'est vraiment pas ça, l'objectif.
C'est le nouveau véhicule d'entrée de gamme.
C'est le nouveau véhicule d'entrée de gamme de Ford. Et Ford mentionne que, oui, on va avoir des nouveaux acheteurs, des gens qui achetaient peut-être des Focus dans le passé, des trucs comme ça, mais beaucoup de gens qui considéraient des camionnettes usagées ou des véhicules d'occasion et qui vont se tourner vers un véhicule neuf. C'est vraiment ça l'approche qu'on prend. J'ai conduit la version hybride et la version à essence 2 litres rouage intégral. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont aussi une version 2 litres avec roue motrice avant seulement, ce qu'on n'a pas chez nous. Version 2 litres là, à 250 chevaux, ça va très, très bien. Mais encore une fois, pensez pas avoir le niveau de luxe de raffinement d'un Santa Cruz. On n'est pas là.
Alors, de payer... En optant pour le 2 litres turbo et donc, par conséquent, les 4 roues motrices, la facture est quand même plus considérable.
Oui, mais tu peux rester raisonnable si tu ne prends pas une version Lariat avec l'ensemble FX4, tout ce que tu voudras. Tu sais, donc, c'est ça. Il ne faut juste pas aller jouer dans les hautes sphères parce que quand tu vas jouer dans les 37, 38, 40 000 $ ben là, je fais comme, oh, OK, ben là, on est dans le territoire d'un Santa Cruz puis à ce moment-là, ben je prendrais probablement un Santa Cruz. Mais si tu restes raisonnable au niveau facture, facture, ça peut être un produit très intéressant. Et la grande nouveauté, et ce qui est pertinent pour nous, c'est l'hybride. Effectivement, écoute, moi, j'ai roulé là, en milieu urbain, là, un 60 km, là, j'ai fait 4,1 litres au 100. Non, après ça, t'embarques sur l'autoroute, puis bon.
Oui, 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 ça va s'équilibrer, mais ça demeure très, très impressionnant.
C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça va bien, c'est polyvalent. La caisse est bien pensée. On a pensé à tout. Design, je suis pas impressionné par le design.
Non, je trouve qu'il y a plus l'air d'un petit F-150 que d'un petit Ranger.
Oui, oui, absolument.
Tu sais, c'est vraiment...
Puis contrairement à Honda, ils n'ont pas fait semblant de mettre un joint entre la boîte puis la cabine pour nous faire croire que c'est un pick-up. Là, c'est pas ça. C'est un châssis d'Escape et on l'assume complètement.
Et tu parlais de nouveaux acheteurs, de gens qui regardaient peut-être des véhicules d'occasion. Est-ce qu'on peut même imaginer que des gens qui ne considéraient pas une camionnette pourraient se procurer un Ranger?
Absolument. Ils le voient déjà, des acheteurs de Focus, de Fusion... Il y a quelqu'un qui a changé, il mentionnait cette semaine que tout près, il y a quelqu'un qui avait échangé son C-Max Energy contre un hybride comme ça, une camionnette hybride. C'est bon, c'est sûr que quand t'es au Michigan...
Il y a un petit peu plus d'espace dans la boîte du Maverick que dans le coffre du C-Max.
Mais c'est sûr que quand t'es au Michigan, juste de croiser une voiture japonaise, c'est rare. Fait que tu sais, bon, tu comprends que c'est un marché qui est vraiment différent du nôtre. Mais je suis persuadé que ce produit-là va avoir beaucoup, beaucoup de succès.
Bon, ben cette semaine avaient lieu les essais. Tous les journalistes vont comptabiliser leurs notes et leurs résultats. À quel moment on va pouvoir connaître justement les gagnants des trois catégories?
Ben écoute, on va comptabiliser tout ça. Il y aura au Salon de Los Angeles.
Si Salon de Los Angeles il y a.
Il y a parce que c'est prévu. Dévoilement des trois finalistes.
C'est prévu pour cet automne, le Salon de Los Angeles?
Oui, exactement. Donc, troisième semaine de novembre. Alors, il y aura dévoilement des trois finalistes dans chaque catégorie. Et finalement, le dévoilement se fera en janvier, dans la période où normalement aurait lieu le Salon de Détroit, mais ce qui a pu lieu.
Donc, alors, un peu avant le Salon de Montréal, finalement.
Exactement. Okay. Exactement. Ça va ressembler à ça. Là, je vous ai pas parlé du Hummer non plus.
Ah, ben oui. Ben, hein? Un mot sur le Hummer, oui.
Écoute, c'est monstrueux. C'est 1000 chevaux de puissance. C'est un camion gigantesque, démesuré. Tu peux enlever les panneaux de toit. J'ai essayé la technologie crab walk, c'est-à-dire que les quatre roues tournent dans le même angle et puis tu peux te bouger de façon latérale.
C'est quelque chose.
Complètement inutile, mais le camion est capable de le faire.
Et les autres ne peuvent pas le faire.
Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que lorsque tu fais un virage en U, tu as le même diamètre de braquage qu'avec une Chevrolet Spark. Ça tourne sur un 10 sous parce que les roues arrière sont dans un angle opposé tellement prononcé que ça tourne pratiquement sur soi, sur lui-même. Le véhicule tourne pratiquement sur lui-même.
Wow.
Ça, c'est vraiment impressionnant. Bon, pas besoin de te dire que la puissance, c'est complètement fou. Fait intéressant, on n'a rien dévoilé. Ni le poids, ni la puissance, ni l'autonomie, ni la taille spécifique de la batterie. C'est des informations qui vont arriver très, très, très prochainement.
Mais on s'imagine que c'est très pesant.
Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est de la démesure complète. Les jeux de suspension, c'est incroyable. Mais il faut quand même... Puis je veux dire, tu peux jouer avec la suspension, régler la conduite pour avoir une conduite véritablement sportive et très ferme, ou jacker ça dans les airs...
Pour le hors-route et ce genre de
mais
situation-là.
Mais si tu fais ça,
oui.
Pars pas en tombe. Parce que le transfert de poids quand t'accélères, compte tenu de la puissance, est tellement grand que t'as l'impression que le véhicule lève littéralement du nez quand tu accélères. Alors, il y a un transfert de masse gigantesque qui se fait, mais c'est une super technologie dans un camion complètement démentiel. Est-ce que c'est un petit peu too much pour monsieur tout le monde? Bien évidemment, là.
Puis considérant que GM est un peu... Et a rien d'innovateur avec ces camionnettes pleines grandeur en termes de mécanique. Tiens, on a encore deux V8, là, puis un 4 cylindres turbo.
Oui, mais
tu sais,
on sait...
D'arriver avec quelque chose d'intéressant comme l'électrique comme ça, ben on va peut-être se mettre à jour finalement.
Oui, on sait de toute façon que cette technologie-là on l'intègre d'abord dans le Hummer, mais elle va éventuellement se retrouver dans les prochaines Sierra, Silverado, là, entre autres, et autres véhicules de la famille GM. On peut même imaginer que ça va se retrouver dans des Cadillac Escalade, Tahoe, parce qu'on n'a pas l'intention de faire des petits véhicules là, avec ce châssis-là, c'est certain. C'est un châssis qui est nouveau, pas à 100%, mais qui adapte la batterie. Et qui intègre la batterie, c'est-à-dire que le châssis, la batterie fait partie intégrale de la structure du véhicule. Ça, c'est un point intéressant.
OK, intéressant. On va suivre ça.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, avant de perdre complètement la voix, on y va avec quelques questions pour terminer l'émission. Donc, on a Philippe qui nous a écrit que sa conjointe et lui possèdent un Mazda CX-5 2016. Ils sont en attente d'un quatrième enfant qui arrivera prochainement. Et ils magasinent un véhicule plus volumineux et ils aimeraient autant que possible éviter la mini-fourgonnette. Est-ce que tu crois qu'ils auront suffisamment d'espace dans un VUS à trois rangées comme le Honda Pilot ou la Honda Odyssey est inévitable?
Ben, quatre enfants, c'est du stock. Félicitations d'abord, Philippe.
Parce que vous rehaussez la moyenne nationale.
Oui, c'est ça. Puis Germain contribue à ne pas la rehausser.
Je suis encore jeune.
Oui, c'est ça. Mais bref, c'est pas impossible, effectivement. Il y a quelques véhicules qui vont offrir beaucoup d'espace. Je pense au Atlas. Je pense au Chevrolet Traverse, entre autres. Très spacieux. Tu sais, on peut avoir pas mal de dégagement. Si tu prends un Telluride, un Hyundai Palisade, tu vas avoir assez d'espace.
C'est que là, avec quatre enfants, on n'a pas le choix d'utiliser en tout temps la troisième rangée.
Mais il y a là le problème. C'est-à-dire que, tu sais, oui, c'est possible. Mais la vérité, c'est que ton espace cargo va être assez limité. Donc,
L'accès aussi, là, parce que s'il y a des enfants avec un siège de bébé dans cette famille-là, aller attacher l'enfant sur la troisième banquette dans un VUS intermédiaire à trois rangées, bonne chance.
Pas toujours facile.
Alors que l'accès dans une mini-fourgonnette est beaucoup plus facile.
Puis, en fait, moi, c'est pas tant l'espace des sièges qui m'agace que l'espace cargo après. Parce que derrière la troisième rangée, il reste généralement plus beaucoup de place pour mettre le carrosse de bébé, le parc, le sac à couches, tout ce que tu voudras. Et ça, évidemment, là, quand t'es parent, tu le sais, là, tu trimbales une artillerie. J'oserais répondre ceci. À quatre enfants, moi, j'achèterais une fourgonnette. Puis je comprends qu'on veuille rester dans un VUS parce que c'est plus beau, mais en même temps, vous allez drôlement mieux préférer une fourgonnette pour vos véritables besoins. Je pense de toute façon que vous avez plus besoin de vous prouver en tant qu'homme en achetant un camion. Avec quatre enfants, je pense que vous avez fait le travail.
Mais
une fourgonnette, ça demeure le véhicule le plus pratique. Mais évidemment, il y a moyen de composer avec un VUS à trois rangées. Ou sinon, carrément, avec un gros VUS comme un Tahoe. Là.
Mais, oui, là, on manque plus d'espace. Là,
mais encore là, c'est pas aussi pratique qu'une vraie fourgonnette.
Bien, le Suburban, on a de la place.
Oui, le Suburban, là.
Le Tahoe, c'est vrai que derrière la troisième rangée, il n'y a pas tant de place
non,
que ça.
Non, c'est ça. Mais quand... Suburban, oui.
Oui, là, on commence à jaser. On a Sylvie qui nous dit qu'en avril dernier, elle a fait l'achat d'un Toyota RAV4 hybride. Étant donné qu'elle veut le conserver longtemps, elle désire le faire traiter contre la rouille. Un traitement anti-rouille permanent est-il efficace? On demande 699 $ pour ce service-là.
Ouais.
Le commerçant lui dit qu'il faut enlever des panneaux pour effectuer correctement le traitement. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a différents traitements sur le marché. Les traitements à long terme, souvent, ce sont des produits intéressants. Le problème, c'est que faut quand même faire des retouches une fois ou deux ans, une fois. Et là,
parce que l'eau va en avoir à éliminer une partie,
ben,
etc.
C'est ça. Puis je veux dire, veut pas, le produit devient altéré avec le temps. Puis le problème que j'ai avec des traitements qu'on paye cher au jour 1, c'est que tu paies pour un futur. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Tu achètes ton RAV4 hybride comme celui-là. L'année d'après, tu as un accident. Bien, tu as payé 850 $ taxes incluses pour un traitement anti-rouille qui n'aura servi à rien finalement. Alors que si tu as fait un traitement anti-rouille annuel, tu payes 100 $ par année, tu payes annuellement ce pour quoi
tu utilises.
Oui. Exactement. Et un traitement anti-rouille annuel, bien, veux pas, c'est un traitement plus à jour, où tu fais un traitement une fois l'an et tu es certain que ton anti-rouille va être efficace. Je dis pas que c'est pas efficace, ces produits-là. C'est juste que tu paies avant le temps pour un produit que tu sais pas si tu vas utiliser super longtemps. Puis l'autre affaire, c'est que on te le dit pas nécessairement, mais oui, ça demande des retouches une fois aux 2 ans, aux 3 ans, qui vont te coûter un montant supplémentaire aussi. Alors moi, je privilégie un anti-rouille à l'huile annuel. Pour moi, c'est la meilleure formule. Tu paies à l'utilisation, puis tu es certain d'avoir un traitement efficace. Et il faut éviter à tout prix tout ce qui s'appelle traitement anti-rouille électronique. Ça, c'est de la pure arnaque.
C'est bon pour les paquebots.
Oui, c'est ça. Les conteneurs à déchets.
Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Merci beaucoup, Antoine. On ne rate pas le deuxième épisode de la Saturne Astra qui se fait revamper à rouler au suivant tout de suite, finalement.
Exactement.
Bonne semaine.
Cube Radio.